Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
Érosmose. Érotisme. Coquinerie. Sexualité. Sur Osmose Radio.
Bonjour, chers petits fripons. Vous êtes sur Osmose Radio. Quelle excellente idée, puisque c'est la reprise aujourd'hui, ce vendredi après-midi, 3 décembre. C'est la reprise d'Érosmose, l'émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité sur Osmose Radio. Pour vous accueillir, c'est Stéphane, avec ma voix suave, vous l'aurez évidemment deviné. Et on va parler un petit peu d'un événement qui a fait l'actualité récemment, dont il a été question pourtant il y a bien, bien longtemps, et ça s'est concrétisé en cette fin d'année 2021. C'était la Panthéon de Joséphine Baker. Voilà, donc on va parler un petit peu de ça, entre autres choses, aujourd'hui dans l'émission, puisque un ancien sex-symbole qui rentre dans le temple de la nation, c'est tout de même pas anodin, et j'avais envie d'en toucher deux mots aujourd'hui. Et pour ouvrir cette émission, eh bien, on va commencer avec une chanson de Joséphine Baker, tout de suite, Fleurs de Paris.
Fleurs de Paris, fleurs de Paris, qui on veut des fleurs de Paris? Madame, s'il vous plaît, achetez-moi ce fleur de Paris, ça vous portera bonheur. Et vous, monsieur, voulez-vous acheter ce fleur? Sont des fleurs de Paris. Allez, mesdames et messieurs, des fleurs de Paris, des fleurs de Paris, qui en veut des fleurs de Paris? C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé nos couleurs. Le paysan la voyait fleurir dans ses champs, le vieux curé l'adorait dans un ciel tout blanc. Fleur d'espérance, fleur de bonheur, tous ceux qui sont battus pour la liberté, au petit jour l'ont vu briller. La fleur de France, aux trois couleurs, c'est une fleur de Paris, du vieux Paris.
Une chanson, la chanson qui a le mieux incarné la libération avec un grand L en 1944 en France. C'était une chanson Fleurs de Paris qui avait tout d'abord été interprétée par Maurice Chevalier dans une version un peu cocardière, ce dont cet homme-là d'ailleurs n'avait pas lieu de s'enorgueillir parce qu'il avait été un petit peu le cul entre deux chaises pendant l'occupation, mais alors que Joséphine Baker, elle, a toujours été du côté de la résistance et de la France libre, mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et donc son interprétation un peu, elle, était un petit peu plus enthousiasmante, en tout cas à mon sens, dans cette version donc de Fleurs de Paris, la chanson de la libération avec un grand L pour une dame qui aura aussi œuvré à la libération des Noirs aux États-Unis, la libération des femmes en France, la libération des mœurs un petit peu aussi. Tout ça, elle l'aura incarné, mais on ne le sait pas forcément. Et donc la panthéonisation de Joséphine Baker dont je vous parlais tout à l'heure et qui a fait l'objet d'une concrétisation ce mardi 30 novembre et dont il a été question cette semaine avec notamment toutes les récupérations politiques qui ont eu lieu à cette occasion-là. Eh bien, il en est question depuis 2014 pour être précis, puisque c'était sous le mandat de François Hollande qu'il avait été question d'inhumer deux nouvelles personnalités françaises qui avaient œuvré un petit peu pour le progrès social et la grandeur du pays, ce qui est un petit peu l'objet des panthéonisations, vous me direz, dans ce temple laïque, le temple de la République. Et donc il avait été question, sous la suggestion de François Hollande pour le coup, d'y inhumer quelques dames, grandes dames de la France et de la République en particulier, de la France en général. Et du coup il y avait plusieurs noms qui avaient été proposés. Il y avait eu notamment des grandes résistantes, pour revenir à ces périodes des années 40, il y avait eu Germaine Tillion notamment, Simone Veil avec un W, la philosophe, pas la femme politique. Et puis beaucoup plus loin, il y avait aussi Olympe de Gouges sous la Révolution française, ou Louise Michel qui avait été suggérée notamment. À l'époque, Gisèle Halimi n'était pas encore décédée. Aujourd'hui, on parle de panthéoniser Gisèle Halimi, etc. Bref, des femmes de progrès, des femmes influentes, c'est pas ça qui a manqué dans notre pays. Mais le truc, c'est qu'on les connaît pas parce que l'histoire a passé leur nom sous silence. Et pour ma part, Joséphine Baker, même si j'avais beaucoup d'admiration pour elle, je ne savais pas à l'époque qu'elle avait été une femme de progrès social à ce point-là, une grande résistante et une grande patriote, alors même que la France était son pays d'adoption, comme dans la chanson qu'on sifflotait tout à l'heure avec Sergio, le gentil régisseur d'Osmose Radio. J'ai deux amours, hein, cette chanson que tout le monde connaît et qui incarne si bien cette dichotomie qu'il y avait dans cette personnalité et puis ces deux amours, en fait, son pays d'où elle venait, où elle avait vécu tant de galères, et le pays qui l'avait accueilli, le pays dont les citoyens eux-mêmes, pardon, savent pas toujours à quel point il peut être cool quand on le voit des yeux des étrangers. Bref, aparté sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, Joséphine Baker a incarné un petit peu tout ça et on l'a découvert que récemment, en fait, ces dernières années, puisque en 2014, parmi tous les grands noms qui avaient été cités à propos de la panthéonisation de grandes dames de la République, donc ce que je vous citais à l'instant, eh bien, il y a Régis Debray qui, lui, avait proposé Joséphine Baker. Alors, tout le monde avait été un petit peu interloqué parce que Joséphine Baker, une jolie paire de jambes, une ceinture de banane, tout ça, c'est bien mignon, mais quel est le rapport avec la grandeur de la France? Eh bien, justement, lui a su remettre un petit peu des arguments sur cette suggestion-là qu'il avait faite à l'époque en 2014. Et donc cet écrivain, qu'il avait un petit peu connu d'ailleurs à l'époque où il était militant castriste dans les années 60, puisque Joséphine Baker avait aussi beaucoup de sympathie pour Fidel Castro et aussi pour Charles de Gaulle, mais dans son esprit à elle, c'était pas forcément un paradoxe, allez savoir. Et par conséquent, ben lui, il a su un petit peu argumenter tout ça, et je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Là-bas si j'y suis, l'émission de Daniel Mermet qui à l'époque se tenait sur France Inter, dans laquelle Régis Debray exposait un petit peu ses arguments, et aussi on pouvait voir que les gens qui visitaient le Panthéon à l'époque étaient tout aussi ignorants que moi-même, par exemple, à propos des mérites et des grands faits d'armes de Joséphine Baker. Donc je vous propose cette interview tout de suite et on se retrouve après.
Faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux?
Brigitte Debray, qu'est-ce qui vous a pris avec cette histoire de Panthéon? L'avantage, en tout cas, de cette déclaration que vous avez faite dans Le Monde, c'est que c'est pour beaucoup de gens, par exemple de ma génération ou beaucoup d'autres, ça fait ressortir tout un pan de la personnalité de Joséphine Baker qui était, moi je vous l'avoue, parfaitement ignorée. J'avais comme beaucoup l'image, justement, la revue Nègre, la charmante demoiselle qui montre ses seins et qui provoque, qui a tout de suite le soutien et l'admiration des surréalistes. J'ai aussi une star, comme la France en avait pas eu beaucoup à l'époque, un peu fantaisiste, avec ses 12 enfants. Mais bon, ça ressemble un peu à ce que fait Brad Pitt et Angelina Jolie aujourd'hui. Et voilà que, suite à votre tribune, on ressort justement son passé d'engagement d'une femme qui ne s'est pas beaucoup trompée, en fait.
C'est une femme qui danse, qui chante et qui se bat. Qui n'est pas admise par tous. Et pour cause, parce que ce n'est ni une intello, ni une martyre, ni une savante. Ce n'est pas Simone de Beauvoir, ce n'est pas Olympe de Gouges, ce n'est pas Germaine Tillion. Bon. Et pourtant, je crois que le geste tournerait la cérémonie commémorative vers le futur, avec une femme qui a toujours vécu au futur antérieur, je veux dire avec un temps d'avance sur son temps à elle. En sorte que elle se retrouverait en plein dans notre temps à nous. Quand la France d'avant-guerre était pudibonde, elle n'a pas eu honte de son corps, elle en a même fait une œuvre d'art. Quand la France de la guerre en 1940 était pétainiste, elle a rejoint dès 1940 la France libre, lieutenant de l'armée de l'air de la France libre. Quand la France après-guerre était encore inconsciemment raciste, elle a fondé une famille à arc-en-ciel avec des garçons et des filles de toutes les races et de tous les continents. Quand on chipotait ou quand on chipote pour donner la nationalité à nos immigrés, cette américaine s'est fait naturaliser française pendant le Front populaire. Et quand les Français n'aiment plus vraiment leur patrie, elle dit honneur et patrie. J'ai deux amours, mon pays et Paris, je crois que c'est bien de mettre le mot amour au pluriel. Et ce serait bien de mettre Joséphine Baker au Panthéon, voilà tout.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, France Inter.
Bonjour.
Vous venez
de l'Aveyron.
De l'Aveyron ?
Ouais. On est monté à Paris pour visiter un petit peu. Mmh. Et on est venu voir le Panthéon.
Est-ce qu'il y a un résident particulier que vous êtes venu visiter ?
Je suis venu voir Marie Curie et Victor Hugo. Marie Curie parce que je l'admire et Victor Hugo parce qu'il avait de très jolis poèmes, notamment celui sur sa fille Apolline qu'il a perdue, qui me rappelle beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de généraux d'empire et de...
On ne connaît pas, il y en a qu'on ne connaît pas, hein, mais bon, ces histoires, c'est pas pour rien, certainement.
Et est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a un débat, parce que notre président, il va nommer des nouveaux résidents.
Et qui c'est qui propose ?
Il y a eu des débats pas possibles, vous imaginez, entre historiens, intellectuels. Et il y en a un, je ne sais pas si vous connaissez, Régis Debray, qui a dit qu'il faudrait mettre Joséphine Baker.
Joséphine Baker, elle a fait de très belles choses, mais tout.
Non, je ne pense pas qu'elle ait sa place.
Non, moi non plus.
C'est plutôt artistique, showbiz, ouais, c'est pas du tout pareil. On ne peut pas comparer avec un Jean Moulin, quoi, je veux dire. Non, et puis ce n'est pas le même dévouement non, vis-à-vis de la nation. Ça n'a pas le même rapport.
Tu peux mettre Edith Piaf à ce compteur-là.
Non, en ce lieu, je pense que mérite. Il faut avoir quand même fait quelque chose.
Et si je vous disais que Joséphine Baker, elle a 5 médailles de la résistance. Parce qu'elle a été, du premier jour, engagée pour la libération de la France contre le nazisme.
Ah, c'est pas par rapport aux enfants qu'elle a adoptés contre la... Ah, alors là,
Personnellement, je ne savais pas. C'est vrai que moi, je la vois plutôt en train de danser avec les bananes que... Je ne savais pas, moi je la voyais showbiz.
Elle a sa place, hein. Elle a sa place. On ne sait pas tout, il faut tout nous dire. Hein.
Bon, j'ai appris un truc ce matin, c'est cet après-midi, ça vient. On va continuer.
Bon, bah, bonne visite. Allez, au revoir.
Vous savez, les révolutionnaires n'ont pas tous le couteau entre les dents ou la kalachnikov dans la main. Joséphine Baker était une révolutionnaire à sa façon. Elle l'a été dans le domaine esthétique, elle l'a été dans le domaine politique, n'oublions pas ce qu'elle a fait pour le mouvement des Noirs américains, au point de se faire jeter par les palaces de New York et d'ailleurs, n'oublions pas ce qu'elle a fait pour les guérillas d'Amérique latine.
Etc, etc. On fade un petit peu on interrompt là l'interview. Mais si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur Facebook, notamment, sur les réseaux sociaux, on vous mettra les liens sur le site de là-bas si j'y suis, l'émission de Daniel Mermet, qui s'est fait virer de France Inter parce qu'elle était un petit peu trop marquée à gauche, mais qui a toujours un site sur lequel on peut retrouver les podcasts, notamment celui-là où il était question en 2014 de Joséphine Baker. Donc pour le coup, ils avaient eu le nez fin, puisqu'il n'était pas encore question de la panthéoniser. Et ça a été fait cette année. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Alors je disais, les premières dames dont il était question qui sont entrées, qui ont fait leur entrée dans ce temple républicain, hein, sur le fronton duquel il est écrit « Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante », une ancienne église en fait de l'ancien régime qui avait été reconvertie par les révolutionnaires de 1789 en temple de la nation. Et par conséquent, ben, longtemps, il n'y a eu que des hommes, pendant tout le 19e siècle en fait. La première femme qui est rentrée, elle était rentrée parce que c'était l'épouse de son mari, c'était Sophie Berthelot en 1907. Après, vous avez eu Marie Curie, qui là encore, bon, avait ses mérites personnels, mais elle n'est rentrée dans le Panthéon que parce qu'elle était l'épouse de Pierre Curie. Et c'est seulement en 2015 que, après donc le brainstorming républicain dont je vous parlais tout à l'heure en 2014 sous la présidence de François Hollande, que sont rentrées enfin des femmes à titre individuel, et notamment bah, des grandes résistances. Grandes résistantes, ça a été le cas notamment de Germaine Tillion, et la même année, ça a été Geneviève de Gaulle qui sont entrées toutes les deux au Panthéon. Alors, au Panthéon, on fait entrer soit on inhume dans les cryptes vraiment la dépouille d'un grand personnage de la France et de la République, soit on met un cénotaphe pour y faire une inhumation symbolique. Et ça a été le cas notamment de Joséphine Baker tout récemment, puisqu'en fait on ne trouve pas que des gens qui sont réellement inhumés, dont les corps sont réellement inhumés dans la crypte du Panthéon, en fait. Parfois, il y a simplement un monument qui symbolise la présence d'une personnalité particulière. C'est le cas notamment de deux personnes que j'ai citées, Germaine Tillion, et ça a été aussi le cas de Joséphine Baker, dans le cénotaphe duquel on trouve quelques poignées de terre, une poignée de terre de son lieu de naissance dans le Missouri aux États-Unis, aussi du château des Milan dans Dordogne, qui a été un lieu très important pour elle puisqu'elle y a élevé toute la ribambelle d'enfants adoptés dont elle s'est entourée en fait à l'époque, et aussi donc un peu de terre de son lieu d'inhumation à Monaco, puisqu'elle était une de ses grandes mécènes, c'était Grâce de Monaco qui l'a soutenue jusque dans les derniers moments. Et donc la dépouille de Joséphine Baker, contrairement à ce que je croyais, reste effectivement dans le cimetière de Monaco, mais symboliquement elle est entrée au Panthéon avec un grand discours de Macron mardi, cette semaine, donc mardi il y a quelques jours. Et d'ailleurs c'est amusant parce que dans le discours de Macron que j'ai écouté et que j'ai lu un petit peu, eh bien on retrouve exactement les éléments que Régis Debray vous exposait à l'instant dans cette interview. Donc voilà, je sais pas qui a écrit le discours de Macron, mais je trouve ça assez ironique qu'on y retrouve les mêmes éléments de langage. Et on verra tout à l'heure pour les récupérations politiques dont ça a fait l'objet dans les médias. Mais pour le moment, voilà, je voulais donc vous parler de Joséphine Baker, une sacrée paire de jolies gambettes, mais elle n'était pas que ça, puisque si ça n'avait été qu'un sexe symbole, elle serait restée dans les mémoires, mais à l'égal de Miss Tinguette. Sauf que bon, Miss Tinguette avait pas le talent de Joséphine Baker quand même, faut pas déconner. Et Joséphine Baker, dans toutes les années 1920-1930, s'est fait une réputation déjà de femme libre, puisque certes, c'était une diva du musical, etc. Elle avait aussi séduit tout l'environnement de tout le milieu artistique des surréalistes de l'époque. Je vais aller très rapidement sur ces aspects de la biographie, vous en faites pas puisque vous l'avez déjà entendu par mons et par vos. Néanmoins, ça mérite d'être souligné que notamment elle avait deux amours, la France et les États-Unis, mais elle avait aussi plusieurs amours puisqu'elle était ouvertement bisexuelle, ce qui dans le milieu dans lequel elle évoluait à l'époque n'était pas forcément très novateur, mais tout de même dans le contexte de la société française de l'époque, c'était quand même assez gonflé puisque l'homosexualité en général, l'homosexualité féminine en particulier, c'était considéré comme non seulement comme des déviances, mais carrément comme des maladies mentales. Par conséquent, il fallait l'assumer, ce qu'elle faisait de façon charmante par ailleurs. Et Joséphine Baker donc avait su faire tout ça. Et puis au début des années 30, elle approchait la trentaine, elle a voulu avoir le même succès, forte du succès qu'elle avait eu en France, elle a voulu retourner se produire aux États-Unis. Et là, claque magistrale, elle s'est pris le système de ségrégation dans le visage en fait, et dans l'orgueil aussi, puisque elle pouvait pas se produire, ou quand elle se produisait, pouvait pas du tout y avoir de noir dans la salle, alors qu'elle-même était métisse. Et par conséquent, elle en a conçu beaucoup de dépit. Elle est revenue en France et là, elle a demandé la nationalité française. C'était l'époque du Front Populaire en 1937. C'était aussi à l'aube de la guerre. Et justement, dès le début de la guerre franco-allemande en 1939, elle s'est investie dans le théâtre aux armées notamment. Elle se produisait pour les soldats. Et dès la débâcle de mai 1940, eh bien, elle a pris contact avec la France libre à Londres. Elle-même a émigré dans son château en Dordogne, le château des Milan, qu'elle n'avait pas encore acheté, mais dans lequel elle vivait déjà à l'époque. Et elle a fait de ce lieu un lieu où pouvaient se réfugier des juifs qui étaient traqués, puisque elle-même évoluant dans un milieu artistique avant-guerre, eh bien, elle avait beaucoup de connaissances dans les milieux des musiciens, des acteurs, etc., dans lequel on trouvait évidemment beaucoup de juifs, que ce soit des gens qui avaient fui les régimes fascistes ou nazis, ou bien que ce soit tout simplement des juifs français qui évoluaient dans ce milieu-là. Et bien, par conséquent, elle a participé à Les Dissimulés. Elle a même parfois fait son tour de comédie à des gens de la Gestapo qui étaient venus pour l'interroger. Alors, qu'est-ce que foutaient des gens de la Gestapo en zone sud alors que c'était le régime de Vichy? Ça, je sais pas trop. Toujours est-il qu'elle avait joué les idiotes avec son accent américain. Elle faisait « Ah, excusez-moi, je ne comprends pas », etc. Les mecs, avec leur accent allemand, ils savaient pas trop quoi lui répondre. Elle les a couillonnés bien comme il faut en faisant l'idiote. Et puis, ces mecs-là, forts de les préjugés raciaux, se sont dit « Ah, c'est bon, c'est une négresse, elle comprend rien à ce qu'on lui dit, on se casse ». Voilà. Vous voyez, donc, en jouant sur les clichés comme ça, ce qu'elle avait su faire aussi d'ailleurs avant-guerre, eh bien, elle avait réussi à avancer ses pions à elle. Et c'est tout à son honneur. Je vous donne un autre exemple, c'est que quand elle a pris contact avec la France libre, elle a été ce qu'on appelle une honorable correspondante dans les milieux de l'espionnage, c'est-à-dire qu'en gros, elle transportait des ordres, elle apportait des informations, etc. Puisque si elle refusait alors que la France était occupée par les Allemands, de se produire à nouveau en France, eh bien, elle ne rechignait pas, par contre, à aller se produire au Brésil, en Syrie, en Afrique du Nord, etc. Et là, elle rencontrait beaucoup de gens, des politiques, des artistes, des intellectuels, etc. Et donc, par les conversations, par son charme, etc., elle pouvait glaner énormément d'informations. Et c'est comme ça que Joséphine Baker est devenue une grande espionne au service du deuxième bureau du général de Gaulle, les services de la France libre. Voilà, pour l'anecdote, un truc, c'est un de ses faits d'armes les plus connus en l'occurrence, eh bien c'est que sur ses partitions, les partitions des chansons qu'elle interprétait à droite à gauche, eh bien elle écrivait des informations à l'encre sympathique, à l'encre invisible. Résultat, si on lui fouillait son sac, il y avait que des partitions, des chansons, etc. Mais par contre, une fois qu'on les passait à la bougie, on pouvait retrouver des notes confidentielles et des messages codés. Voilà, donc bien joué Joséphine, osez Joséphine, comme aurait dit quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc toutes ces anecdotes pendant la guerre sont toutes à son honneur. Et après-guerre, elle est revenue un petit peu en France. Elle a acheté le château des Milandes et par rapport à une mésaventure qui lui était arrivée en 1940 alors qu'elle était 41 pardon, alors qu'elle était en gala en Afrique du Nord, eh bien ça c'est quelque chose qui arrive aux femmes, hélas, quelque chose d'assez triste, c'est qu'elle a fait une fausse couche d'un enfant mort-né et ça il y a eu une infection et les chirurgiens ont été obligés de lui faire ce qu'on appelle une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. Par conséquent, elle n'était pas extrêmement vieille, mais elle ne pouvait plus avoir d'enfants. C'était râpé. Et par conséquent, eh bien, cet événement un peu morbide qui lui est arrivé, elle a su, là encore, la tourner à son avantage, peut-être pas, mais en tout cas, de faire de ce déboire morbide qui lui est arrivé, eh bien, une force de vie. Et elle a décidé, à partir du moment en 1947 où elle a acheté le château des Milandes en Dordogne, elle a décidé de le peupler d'enfants, notamment sa tribu arc-en-ciel, dont vous avez forcément entendu parler, puisque c'était des enfants qu'elle avait adoptés de par le monde quand elle était en gala au Japon, par exemple. Eh bien, elle allait dans les orphelinats, elle demandait s'ils pouvaient adopter un pauvre gamin qui avait été abandonné, parce qu'avec la misère qu'il y avait à l'époque dans le Japon d'après-guerre, c'est les enfants abandonnés, c'est pas ça qui manquait. Et c'est comme ça qu'elle a adopté des enfants au Japon, en Finlande, au Brésil, en Afrique, que sais-je, pour en faire ce qu'elle appelait la tribu arc-en-ciel, une douzaine d'enfants qu'elle avait adoptés qui vivaient avec elle dans ce château. Voilà. Donc ce fait, j'ai envie de dire un fait d'armes, parce que c'est quand même tout à son honneur et c'est une assez belle anecdote. Pour autant, il y a aussi une part d'ombre chez Joséphine Baker et ce n'est pas lui faire offense que de le souligner malgré tout, puisque si Joséphine Baker était une forte personnalité, c'était aussi une personnalité fantasque, une personnalité d'artiste certes, mais parfois c'était pas forcément facile à vivre pour ceux qui vivaient avec elle. En l'occurrence, elle avait conçu cette tribu arc-en-ciel dans ce fameux château qui était un paradis pour des enfants, hein, bien entendu, tant qu'il y avait du pognon pour l'entretenir, bien entendu, eh bien, avec son quatrième mari qui s'appelait Jo Bouillon, qui avait été un de ses musiciens. Et ensemble, ben, lui, il restait de temps en temps, quand elle partait à l'autre bout du monde faire un tour de chant, eh bien, lui, il restait au château pour s'occuper des gosses. Vous voyez, c'était un petit peu la situation inversée des couples classiques. C'est madame qui va gagner de l'argent et puis c'est le père qui reste à s'occuper des enfants. Et les enfants, mais vivaient un petit peu comme ça. Et puis quand Joséphine rentrait du Brésil, d'Argentine, des États-Unis, à 3h du matin, elle allait dans la chambre des gosses, elle réveillait tout le monde pour qu'on fasse la fête avec elle. Mais bon, c'est pas un rythme pour des enfants, par exemple, vous voyez. Ça n'empêche pas que tout le monde l'aimait beaucoup, mais parfois, elle était un petit peu compliquée à vivre. Et un autre truc, par contre, qui était assez à ce que moi, dans ma vision moderne des choses, évidemment, je trouve un petit peu sordide, mais même si, eh bien, c'est que Joséphine Baker, tout en ayant lutté pour l'égalité sociale, pour la France libre, pour la condition des femmes, eh bien, elle avait aussi, c'était une femme qui avait les préjugés de son temps, malgré tout. Et il y a un de des enfants de sa tribu arc-en-ciel qui en a fait les frais. Il s'appelait Jari Bouillon. C'était celui qui était d'origine finlandaise et qui s'est révélé être un homosexuel au moment de l'adolescence. Et alors là, elle l'a très mal pris, alors même qu'elle avait côtoyé des homosexuels toute sa vie, puisque dans les milieux artistiques, il y en a beaucoup, et notamment dans les milieux des surréalistes qu'elle avait côtoyés avant-guerre. Elle l'a très mal pris, et à ce moment-là, elle avait déjà divorcé d'avec Jo Bouillon, c'était en 1964, elle l'envoyait vivre avec son père. Donc elle l'a pas vraiment exclu, il s'est pas trouvé à la rue, le gamin, mais tout de même, elle l'a un petit peu répudié, en quelque sorte. Ça a dû être assez dur à vivre pour lui. Et c'était aussi une période, le début des années 60, où c'était assez difficile pour elle, puisqu'elle avait de moins en moins d'argent, et donc de moins en moins d'argent pour entretenir ce grand château. Et c'est là qu'elle a fait l'objet de beaucoup de solidarité par rapport à tous les réseaux qu'elle avait tissés tout au long de sa carrière, mais aussi par rapport à tous ces mérites qui ont un petit peu, sont petit peu passé dans l'oubli après sa mort en 75 et qu'on redécouvre aujourd'hui. Notamment une personnalité comme Brigitte Bardot, qui ne la connaissait pas Joséphine Baker personnellement par exemple, avait envoyé de l'argent pour faire des réfections, des rénovations dans le château des Mille Landes. C'est quand même assez ironique quand on pense que Brigitte Bardot aujourd'hui est une personnalité assez raciste et assez réactionnaire. Eh bien, à l'époque de sa splendeur, elle a quand même su faire des montres de solidarité. Et d'ailleurs, elle l'a fait discrètement, c'est-à-dire qu'elle donnait de l'argent, mais elle s'en vantait pas. Donc là encore, c'est à mon avis, c'est tout à l'honneur de Brigitte Bardot, malgré le fait qu'elle a un petit peu mal tourné par la suite. Voilà. Des anecdotes comme ça, je pourrais vous en citer à la douzaine, mais je vais conclure quand même en disant que Joséphine Baker disait, elle était à la fois l'amie de Fidel Castro et l'amie du général de Gaulle. Et pour elle, il n'y avait pas forcément de contradiction là-dedans, comme il y en avait dans l'esprit des gens de l'époque, notamment les gens de mai 68. Parce que elle avait un petit peu tourné à la Havane à l'époque où c'était ce qu'on appelle le bordel de l'Amérique. C'est-à-dire qu'en gros, toute l'île de Cuba était tenue par la mafia américaine qui en avait fait des bars à putes, des boîtes de nuit, etc. Et ça a brassé un pognon de malade. Et donc, elle avait connu cette ambiance un petit peu malsaine à l'époque de Batista, du dictateur Batista, qui était totalement inféodé aux Américains. Elle a aussi connu la ségrégation dans son pays natal et elle a soutenu Martin Luther King dans sa démarche pour les droits civiques. Elle a aussi pris la parole aux côtés du révérend Luther King lors de la marche des Noirs au début des années 60 au Capitole de Washington, etc. Donc cette femme qu'on connaît surtout par ses jolies gambettes, par sa plastique, par son charme, par son minois, était aussi une femme de caractère qui avait une personnalité bien trempée et qui a su faire tout ça et aussi avec des accointances qui lui ont valu des problèmes parce que être l'amie de Fidel Castro pour la libération et le progrès social sur l'île de Cuba, et ben du fait elle a été blacklistée au FBI comme sympathisante communiste et je vous dis pas les emmerdements que ça lui a valu. Bref, et en même temps, en 68, quand toute la société française contestait le général de Gaulle, et bien elle a participé à une manifestation de soutien à Charles de Gaulle, président encore à l'époque, aux côtés d'autres gaullistes historiques. Et c'est là que certains journalistes de Libération, je crois, mais à vérifier, je suis pas sûr, avaient dit « Elle a commencé avec des bananes, elle a fini avec le régime ». Waouh, la grande classe, hein. Dans le genre réflexion misogyne, c'est pas mal. Donc voilà, il y avait parfois des incompréhensions, mais ça n'en reste pas moins une grande dame qui, hélas, a fait l'objet de récupérations politiques lors de son transfert au Panthéon tout récemment, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et pour ma part, ce qui m'a le plus répugné à titre personnel, ça a été de voir le faciès de grenouille, là, Éric Zemmour, qui disait que c'était Joséphine Baker était une preuve d'intégration à la française, alors même que le mec parle de réhabiliter le maréchal Pétain dont Joséphine Baker elle-même avait subi l'influence néfaste sur la France de l'époque. Par conséquent, j'aime à croire que si elle avait été face à Éric Zemmour, Joséphine Baker lui aurait mis deux tartes et il serait allé pleurer sa mère. Par conséquent, voilà, donc une femme forte, une femme charmante, une femme qui a aussi avait su se jouer des conventions de son temps, puisque comme je le disais tout à l'heure, eh bien elle évoluait dans les années 1920-1930. Il y avait encore beaucoup d'imaginaire colonial en France. Il n'y avait pas de ségrégation comme elle l'avait connue aux États-Unis. Et pour ça, elle a toujours été extrêmement reconnaissante. En France, on a tendance un petit peu à dévaluer notre pays et à voir tout ce qui n'y va pas. On a du mal parfois à comprendre ou même simplement à admettre ce que les étrangers peuvent y trouver de positif malgré nous, en quelque sorte. Et elle, par conséquent, quand elle a demandé la nationalité française, par contre, c'était aussi pour ça. Et donc, elle a su se jouer des préjugés de son temps et notamment, et bien dans cet imaginaire colonial dans lequel on l'avait un petit peu cantonnée dans un premier temps, puisqu'elle dansait avec des bananes autour de la taille, elle incarnait la négresse de service en quelque sorte, passez-moi l'expression, dans les spectacles de music hall de l'époque. Mais tout ça, et bien elle a su l'en jouer avec tellement d'ironie qu'en fait, ben finalement, les couillons, quand on la voit avec des bananes autour de la taille, les couillons, c'est nous en quelque sorte. C'est nous de nous amuser de tous ces clichés, alors que elle s'est tellement transcendée tout ça, notamment dans la chanson qu'on va écouter tout de suite, une chanson où il est question d'un petit bout de femme vietnamienne, et en fait, c'était interprété par un petit bout de femme américaine, tout de suite la petite tonkinoise.
C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vivre, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan Kiki, Satan Kiki, Satan Kinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pieu, oh pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manchurie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamique. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan Kiki, Satan Kiki, Satan Kinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan Kiki, Satan Kiki, Satan Kinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
Ah voilà, donc la petite voix qui minaude de Joséphine Baker à l'instant dans votre poste, c'était dans Erosmos, pour conclure sur ce personnage sensuel, sexy, truculent à l'occasion et aussi extrêmement courageuse qu'on avait tendance à ignorer jusqu'à une période récente. Et son transfert au Panthéon. Voilà, chers amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bien sur Osmose Radio avec Stéphane. Vous êtes bien dans Erosmose, l'émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité. Et là, on parlait d'un personnage qui était un petit peu singulier dans l'érotisme des années 1920-1930, qui avait son style à elle. Bah, c'était Joséphine Baker, qui était bandante comme c'est pas croyable. Je m'excuse de le dire comme ça, et qui était aussi une grande dame. Bah, en l'occurrence, une grande dame, la patrie reconnaissante, puisque elle est entrée au Panthéon mardi. Voilà, chers amis. Et elle était entrée au Panthéon mardi, ça a été annoncé à la fin du mois d'août, alors qu'on approchait de la rentrée. Et un autre truc qui a été annoncé au mois d'août, à la fin août, bah, c'était des polémiques à la con, un marronnier des médias pour la période de la rentrée en général, les polémiques à la con. Et cette année, bah, on a eu droit à une qui était particulièrement ridicule, quant à savoir, est-ce que les cours d'école sont genrés? Alors vous savez qu'il y a beaucoup de militants antisexistes qui voient un petit peu le mal partout, et un terrain de foot dans une école, apparemment, bah, ça les trouble. Et par conséquent, ben, on a eu droit dans les médias au mois de septembre, à savoir, est-ce que les cours d'école sont genrés, est-ce qu'il y a des places assignées aux filles, aux garçons, etc. Faire confiance aux gamins et les laisser s'amuser, apparemment, ça n'a pas effleuré ces braves gens. Et donc, ben, ça a été fait l'objet d'une polémique médiatique, évidemment, dans lesquelles les politiciens de tout poil se sont engouffrés, soit qu'ils étaient viscéralement contre, soit qu'ils étaient plutôt favorables pour des raisons, ben, qui n'ont rien à voir avec le bien-être des enfants en général. Bref, donc toutes ces questions de la sexualité, des normes sociales et des normes sexuelles appliquées à des enfants, c'est toujours un petit peu quelque chose de malsain. Et nous autres qui avons eu subir cette propagande médiatique, eh bien il y en a parmi nous qui un blogueur notamment, qui ont su se réapproprier ce sinistre fait divers et le tourner en dérision. Et c'est notamment le cas d'un garçon qui a pour pseudonyme un odieux connard, et qui tient donc un blog, le blog d'un odieux connard, depuis quelques années. Et parfois, ben, on se dit qu'il porte bien son nom, puisque il a un ton sarcastique qui est assez noir, c'est un humour assez noir, et en même temps on peut pas s'empêcher de rire nerveusement à certaines de ses saillies. Et par conséquent, je vais vous lire un de ses articles de blog qui était sorti en début septembre de cette année, 6 septembre 2021. Les cours d'école sont-elles genrées? À chaque rentrée, son lot de polémiques. Cette année, nous avons été particulièrement gâtés, puisque comme il n'y avait pas d'autres actualités brûlantes, ce n'est pas un, mais bien deux débats qui se sont tranquillement installés dans la presse. Le premier fut lancé lorsque le ministre de l'Éducation expliqua que l'allocation de rentrée scolaire était loin de toujours aller au matériel scolaire, à moins bien sûr d'utiliser un écran plat comme une équerre. Le second apparut, lui, avec l'inauguration en grande pompe de cours d'école non genrés par des élus, les précédentes cours étant jugées sexistes. Il n'en fallait pas plus pour que des experts débarquent sur tous les plateaux avec une exigence, des preuves. Mais attention, hein, juste concernant cette histoire d'achat d'écran plat. Parce que le fait que des gens puissent acheter des conneries, non, quand même, ça se saurait. Alors qu'à côté de ça, expliquer que les cours d'école travaillent en secret pour le patriarcat, ça c'est bon, c'est assez évident pour tout le monde, inutile de prouver quoi que ce soit. Bref, comment ? Ce n'est pas si évident pour vous ? Bon, j'avoue que pour votre serviteur non plus. Aussi, en cette période de rentrée scolaire et de retour aux dissertations, posons de suite cette problématique. Les cours d'école sont-elles genrées ? Procédons avec méthode. Qu'est-ce qu'une cour d'école ? De manière générale, c'est un endroit plutôt plat et gris, peuplé de petits êtres brillants qui poussent des cris suffisamment aigus pour tuer un chien à 30 mètres. C'est d'ailleurs pour cela que, de manière générale, on croise assez peu de vieilles dames dans les cours d'école. Elles tiennent à Kiki. Mais l'observateur attentif constatera quelque chose de bien plus mystérieux. Dans la plupart des cours d'école, on trouve au sol d'étranges traits peinturlurés. Certains forment les limites d'un terrain de foot ou de basket. D'autres comportent tellement de lignes imbriquées que le tout ressemble plus à un pentacle pour invoquer Satan qu'à un équipement sportif. Mais passons, et restons dans l'idée qu'une partie de la cour d'école est souvent réalisée de manière à ce que l'on puisse y pratiquer du sport. Et c'est là que débute notre affaire. Selon les experts, le terrain de sport, surtout si c'est au foot, et sexiste. S'il est vrai que le terrain de foot a un rapport tout particulier aux testicules, c'est principalement parce qu'il les casse furieusement. Combien d'enseignants ont en effet roulé des yeux en entendant pour la 30e fois à la récréation « Eh monsieur, monsieur, le ballon il est passé par-dessus le mur, je peux sortir le chercher s'il vous plaît ?» Plus d'une partie a été arrêtée, un ballon confisqué et suite à un brisage de roubignol caractérisé. Pourtant, si cette raison paraît suffisante pour effacer le terrain de foot et pendre un enfant aux cages pour faire un exemple, ce n'est pas pour cela qu'une partie de nos élus a décidé d'effacer ces lieux du démon pour les remplacer par des potagers. Véridique, hein, car tout le monde sait que les enfants adorent regarder les légumes pousser à la récré. Mais alors, d'où vient ce souhait de réorganiser les cours d'école en urgence, et principalement autour de la question de ce maudit football ? Eh bien, c'est d'une logique redoutablement mathématique. 1. Le terrain de foot occupe beaucoup de place dans la cour. 2. Les garçons occupent principalement le terrain de foot. 3. Donc les garçons occupent beaucoup de place dans la cour. Sexisme. Enfin, moi je dirais sophisme, mais bon, sexisme. Mais d'où que ça vient cette théorie, vous interrogerez-vous en vous grattant très fort le menton. M'étant moi-même chatouillé la barbe en accompagnant par le geste de divers mouvements de sourcils, je suis allé voir et voici donc que cette thèse ne date pas d'hier. Car comme le rappelle Raphaël Rémy Leleu, élu parisienne, tout commence avec un premier rapport de 2014 du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective pour lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Waouh, ça fait sérieux, hein ? Commissariat général à la stratégie et à la prospective pour lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Ouais, ça existe et c'est payé avec votre pognon. Sauf que ça doit être comme les rapports de l'INSEE, hein. Tout le monde les cite, mais personne ne les lit. Ainsi, quid de la problématique du football dans les cours d'école ? Voici la proposition 21 du rapport. L'encouragement à une plus grande diversité des pratiques sportives des filles et des garçons passe par une sensibilisation des parents, des professionnels, donc comme les médecins, les éducateurs, les institutions, comme l'école, et enfin les acteurs associatifs, comme les clubs, sensibiliser tout ce petit monde à la problématique de l'inégalité des sexes et des bienfaits du sport pour tous. Il faut lutter contre l'idée que le sport est, entre guillemets, une affaire de garçons, et contre la dichotomie entre les sports masculins et féminins. L'insistance sur les enjeux de lien social, de santé et de bien-être de l'enfant peut être un levier, et des campagnes de sensibilisation pourraient être envisagées dans les clubs, les écoles et les communes. Ah. Donc, en attendant, en fait, ces gens citent un rapport où il n'est pas du tout écrit que les terrains de foot posent problème, et qui, en fait, dit même exactement l'inverse, à savoir que le vrai problème, ce sont les gens qui décident qu'un sport a un chromosome X ou Y. Ce qui est d'autant plus vrai qu'il existe une preuve que tout ça, c'est aussi malin qu'une tirade de Cyril Hanouna. À savoir qu'aux États-Unis, le foot se nomme soccer et est considéré comme un truc de fille, quand c'est pas comme un truc de tafiole. Vous voudriez dire qu'attribuer un genre à un sport, ce serait culturel ? Que taper dans un ballon n'aurait donc aucun lien à voir un zob qui ballotte sous son short ? Incroyable ! On appréciera donc la douce ironie de voir des gens luttant contre le sexisme citer un rapport qui explique que leur raisonnement est sexiste. C'est vous dire si le sujet les intéresse. Le rapport a en plus le bon goût de citer dans ses conclusions ceci. Les garçons font plus de sport que les filles, surtout à partir de l'adolescence. En 2002, 77% des garçons et 60% des filles de 12 à 17 ans pratiquaient un sport ou une activité sportive en dehors de l'école. Cet écart a augmenté de 14 points en 5 ans et il atteint 30 points dans les foyers les plus défavorisés. Donc, on résume. Les filles font moins de sport que les garçons et cet écart se creuse dans les foyers défavorisés. Ce à quoi nos héros du peuple et de l'aide aux filles, vous avez de la chance mesdames, hein, répondent donc en supprimant le seul terrain de sport gratuit auquel ces demoiselles ont accès quotidiennement grâce à l'école publique, laïque et obligatoire où elles vont tous les jours. À ce stade, c'est si brillant que mes lunettes de soudeur approchent le point de fusion. Moi qui pensais que le problème c'était quand les garçons empêchaient les filles d'accéder au terrain ou de manière générale qu'un genre faisait obstacle à l'autre. Non, apparemment plus de terrain, plus de problèmes. Et inutile aussi de le remplacer par un autre terrain culturellement moins marqué, type volleyball ou de badminton. Dans le doute, on sait jamais. Tout supprimer, c'est bien plus astucieux. Imaginez la même logique appliquée au sexisme au boulot. Chef, je me fais harceler au travail. Alors là, vous avez bien fait de venir me voir, madame. Je vais régler ça immédiatement. Ah ouais, super, vous allez vous occuper du harceleur ? Non, je vais raser le bâtiment où vous bossez et je vais reconstruire un bureau végétalisé. Comme ça, vous avez un petit potager, vous allez être bien comme tout. C'est très très con, je vous rappelle que c'est véritablement la logique de ces gens-là. Mais justement, comment diable ont-ils pu devenir si bêtes ? Trépanation accidentelle en jardinant ? Non, non, que nenni. Nos héros ne citent même pas le rapport de 2014 qu'ils n'ont pas lu. Non, ils citent aussi deux autres sources de bonnes idées. L'atelier Recherche Observation Égalité, qui est abrégé AROB, et un rapport de l'UNICEF de 2018. Ah, mais là encore, ça fait très sérieux, d'accord, mais regardez bien, Mamou. Comment, c'est vous dire ? Commençons par le rapport de l'UNICEF. Je vais résumer cela en trois points. Le rapport est écrit intégralement en inclusif avec des points au milieu des mots. Soit, j'en suis désolé, mais c'est rarement une preuve de grand sérieux scientifique ou d'objectivité. Ce rapport de l'UNICEF a aux manettes, entre autres, Catherine Dolto, qui est la fille de Françoise. Si vous savez pas qui c'est, continuez comme ça, vous avez rien loupé. Pour les autres, eh bien, je vous laisse tousser. Très fort. Et enfin, autre personne derrière le dit rapport, Edith Morvay-Jules, qui se définit elle-même comme une géographe du genre. Waouh. Qui, par un heureux hasard, est aussi fondatrice de l'AROB que l'on citait tout à l'heure. Comme ça, on peut dire, j'ai deux sources qui disent que, mais en fait, c'est deux sources qui disent la même chose. Pour vous résumer le rapport de l'UNICEF et son profond sérieux, laissez-moi vous en citer ce brillant passage. Les politiques d'aménagement s'articulent autour de l'habitant, la neutralité des discours recouvre souvent une conception de l'espace répondant aux préoccupations de l'usager, homme actif. Elle répond à ses besoins de déplacement, domicile-travail, et à sa demande de loisirs masculins, stade de foot, boulodrome, skatepark, équipement sportif, etc. Travailler les effets induits de l'aménagement sous l'angle du genre permet d'imaginer des espaces alternatifs. Prescrire un usage, donc par exemple le foot, faire du skate, etc., c'est prescrire un public qui prescrire un public et proscrire tous les autres usages et publics. Vous le saurez donc, d'après ce rapport qui lutte contre le sexisme, quand on crée des structures pour les déplacements domicile-travail, par exemple un métro, c'est forcément pour les hommes. Hein. Mesdames, c'est connu, vous restez à la cuisine et vous vous occupez des marmots. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les brillants esprits derrière ce rapport de l'UNICEF qui veut lutter contre les stéréotypes de genre. Il n'y a pas à dire, c'est réussi. Mieux encore, le rapport fait un demi-tour frein à main par rapport aux conclusions de 2014 et annonce que les sports ont un genre. Si on construit un stade de foot, c'est pour les hommes. Et c'est bien connu, il n'y a jamais de filles sur les gradins. Hein. Ah oui, mais si je construis le même stade aux États-Unis, ce sont des femmes qu'on va retrouver sur la pelouse. Alors par quel mystère ? Probablement la magie noire. Mieux encore, prescrire un usage, c'est prescrire un public et proscrire tous les autres usages et publics. Exemple, skate égale garçon égale interdit aux filles. Ouais, l'UNICEF en roue libre qui annonce tranquillement que si une fille aime faire du skate, eh bien tant pis pour sa gueule, elle n'a pas le droit d'aller au skatepark. Et que si un garçon aime la danse, il n'a pas intérêt à s'approcher d'une salle, ce petit bâtard. Ouais, la lutte contre le sexisme, c'est comme celle contre le racisme. Des fois on se demande si quelqu'un n'aurait pas passé la marche arrière en pensant que c'était la sixième. Vous me direz, mais qui a bien pu écrire des âneries pareilles ? La réponse se trouve là encore en faisant une rapide recherche pour découvrir qu'Edith Marvay-Jules, la fameuse géographe du genre autoproclamée, défend l'idée que le problème ce n'est pas le sexisme autour d'un sport, mais l'équipement de sport, ce petit bâtard. Qui ne s'est jamais fait insulter par un panier de basket, hein ? Dans l'un de ses entretiens, on peut ainsi lire « L'enjeu est de savoir comment s'approprier l'espace public à égalité, peut-être en neutralisant les équipements et en qualifiant un peu l'espace extérieur sous l'angle des pratiques sexuées stéréotypées. » J'invente pas, c'est vraiment ce qui est écrit. Hein. « Lorsqu'on construit des terrains de boules, parcs de jeux pour enfants, skateparks, citystades, etc., on contribue à sexuer les espaces. » De là à deviner qui a glissé sa petite théorie personnelle dans un rapport de l'UNICEF, il n'y a qu'un pas, que je franchis avec tout un régiment de hussards. Surtout quand on y retrouve des arguments aussi puissants que le sexisme dans les parcs de jeux pour enfants, puisqu'aux dernières nouvelles, les toboggans ne sont pas spécialement sexués. Mais sous le regard de l'Inquisition qui chausse les lunettes du genre, c'est dans le propos de la dame, tout se transforme en quéquette ou en foufounette. Alors certes, cela doit permettre de regarder du porno à vil prix, mais je sais pas, c'est pas très sain. Allez savoir pourquoi. Personnellement, quand je vois un toboggan, ben je vois un toboggan, pas une tub ou à dévaler, ou l'inverse. C'est très confus. Bref. De toute manière, là, Robeux sent l'équipe de champion quand on voit qu'on y trouve Chris Blash, une experte du sexisme urbain, qui n'avait pas hésité à lutter contre le harcèlement de rue en installant de nouveaux bancs. Ouah, ça change tout. Place du Panthéon. Place du Panthéon, qui est un lieu hautement dangereux, hein, où on trouve plein de racailles qui harcèlent les filles, c'est bien connu. Reste donc une question essentielle à traiter, mais en fait, on s'en fout, non? Et pour rester dans l'esprit de la rentrée scolaire, faisons thèse, antithèse et synthèse. 1. Oui, on s'en fout, parce que fondamentalement, cette polémique à deux balles ne va pas changer les choses. On attend d'ailleurs avec impatience de voir nos édiles constater avec effroi que malgré plusieurs millions dépensés pour « neutraliser » entre guillemets l'équipement de ces sales gosses, ces derniers arrivent à réoccuper le terrain exactement de la même façon en délimitant les buts avec trois cartables et un anorak. Bande de sales petits hackers. Ah si seulement on avait pu prévoir ça. Ah, tout ce bel argent dépensé, saligo! D'ailleurs, certains élus ayant constaté ce mystérieux phénomène n'ont pas eu honte de bredouiller. Non, mais on veut pas les empêcher de jouer au foot, hein. Non, on a juste rasé le terrain et les cages. Quelle bonne foi. Moi aussi, hein, c'est pas parce que j'aime pas les gens qui font de la Zumba, mais je veux pas raser les halles de Zumba pour me réapproprier l'espace de manière égalitaire. Bref, les enfants resteront des enfants et joueront bien à ce qu'ils voudront. Si on pouvait les empêcher de faire les cons en installant deux bancs et un potager, croyez bien que les instituteurs vous auraient pas attendu. 2. Non, on s'en fout pas. Puisque si nous ne sommes pas trop inquiets pour les marmots, on l'est quand même un petit peu pour les brillants esprits derrière ce genre de décision. Car cela résume tristement une certaine classe politique, qui ne sait plus se pencher sur un souci autrement qu'en renommant une rue, en installant des bancs, en élargissant les trottoirs ou en posant des bacs à fleurs. Tout problème peut, semble-t-il, être résolu avec du mobilier urbain et une inauguration devant la presse. C'est Deco qui doit être content. Et les talibans, hein, qui doivent trembler à l'idée que pour sauver les femmes là-bas, on y fasse un largage massif de bancs éco-responsables et de plaques de rue Rosa Parks. Une légende contée par de vieux fous au coin du feu les soirs d'hiver raconte pourtant que le sexisme ne viendra pas tant d'un terrain de foot ou d'un skatepark que des trous du cul qui empêchent les filles de rentrer sur le terrain de foot ou le skatepark, ou qui estiment de manière générale que tel coin est à eux, que ce soit un bar, un banc ou un bout de trottoir. Et pas sûr qu'ils s'enfuient en faisant ksrrr, tel des vampires devant un crucifix lorsqu'on vient courageusement installer un bac à fleurs de l'amitié devant eux. Hein. Les mêmes ermites osent susurrer que c'est peut-être parce qu'il y a des connards, connasses, enfin en écriture inclusive, qui écrivent très officiellement que le foot, c'est pour les garçons, et la danse, c'est pour les filles, et qu'on entretient un certain sexisme de merde. Mais quand c'est fait avec l'argent des subventions antisexistes, ça tient de la performance artistique. Les filles qui ont peur de s'inscrire au rugby ou les garçons qui cachent, qui font du tricot, apprécieront le soutien sans faille de ces nouveaux héros. Mais bon, tout cela n'est bien évidemment qu'une légende, car comment diable des gens pourraient très officiellement dépenser de l'argent public dans des décisions allant à l'encontre de leur propre discours en citant des rapports contradictoires qu'ils n'ont même pas lus? Le tout sans que des journalistes ne le remarquent, soit dit en passant. Ce serait à la fois absurde et médiocre, enfin. Nous en arrivons donc à la synthèse. 3. Pendant que nos experts doivent sûrement s'interroger sur ce que foutaient des terrains honteusement sexistes dans la plupart des cours d'école de France, c'était sûrement un complot, hein. Parents, soyez rassurés, rien va changer. Manon pourra toujours se prendre un ballon dans la gueule et aller pleurer que Kylian n'arrête pas de l'emmerder. Désormais, elle pourra le faire près d'une pelouse éco-responsable. Waouh ! Et ça change tout. Comme le sexisme était chez l'élève et pas dans le gazon. Ah, ta, vous n'y connaissez rien. Et si Manon se décide pour oublier à aller faire du roller le dimanche, n'oubliez pas de lui rappeler que le skatepark lui est interdit. De toute façon, il faudrait le raser pour installer un équipement plus féminin, comme un atelier couture à ciel ouvert ou une diénette géante. Le pire, c'est que c'est pas moi qui dis ça, ce sont les antisexistes modernes. Comme quoi. Voilà. Donc tout ça a été écrit début septembre, mais ça a quelques résonances aujourd'hui, puisqu'on parle du pronom neutre. Ben déjà, dans l'article, on parlait un petit peu du Panthéon, dont on parlait tout à l'heure, à l'occasion de Joséphine Baker. Mais aussi, la polémique à la con de ce mois de novembre, c'était le pronom Yel, le pronom neutre que certains voudraient nous imposer, alors qu'en fait, on n'a pas spécialement envie ni projet de l'utiliser. Voilà. Bref, rien de nouveau sous le soleil. La bêtise française reste la bêtise française. Et tout ça a été fait l'objet d'une polémique au niveau de la rentrée, début septembre. Voilà, chers amis. Début septembre, on apprenait un autre truc, histoire de refaire du neuf avec du vieux, c'est que les membres du groupe ABBA, ce groupe suédois des années 70-80, allaient revenir avec un nouvel album, et entre-temps, le nouvel album est sorti ce début du mois de novembre, et par conséquent, les membres du groupe ABBA, qui nous viennent de Suède, où les mesures anti-Covid avaient eu un temps de retard, ces gens-là doivent être anti-confinement, faut croire, hein, puisqu'ils veulent qu'on leur apporte un homme avant minuit. C'est un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer tout de suite. Give me a main. Ah bah dis donc, c'était vachement bien. À l'instant, on écoutait Gimme Gimme, sous-entendu Man After Midnight. C'était les chanteuses du groupe ABBA qui chantaient ça en 76 ou 77, je ne sais plus. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de l'émission. On va se quitter, comme à notre habitude, avec quelques brèves de presse et des réseaux sociaux, tels qu'on peut les lire à droite, à gauche, sur les internets. Et j'ai noté notamment quelques trucs rigolos que j'avais envie de vous citer avant qu'on l'on se quitte. Et ben tiens, on parlait de Eric Zemmour tout à l'heure, il a été question qu'il était, il allait être papa ou un truc comme ça, j'ai pas bien suivi, mais bon, il y en a qui ont suivi mieux que moi, et il y a Madame Nine sur Twitter qui dit, le pire dans cette histoire de paternité d'Éric Zemmour, c'est pas tant qu'il devienne un nouveau papa, ça on s'en fout, c'est de savoir qu'il a une activité sexuelle. Il y a des images mentales intrusives dont on se passerait bien, franchement, hein. Ouais, en même temps, on peut pas lui donner tort, elle a raison. Tiens, c'est sur Facebook que j'avais lu un article de West France où qui titrait que lors d'une battue au sanglier en Dordogne, il y avait un chasseur qui avait été tué par un autre chasseur. Et là, il y avait quelqu'un qui avait commenté « Ah, les mecs s'autorégulent maintenant !» Oui, c'est vrai que tous ces braves gens qui se croient très virils avec leurs fusils, a priori, ils sont même pas foutus de s'en servir correctement. Ils devraient retourner se pignoler. Et tiens, en parlant de se pignoler, il y a Mike Littoris. Alors c'est le pseudo du mec. Hein. Il s'appelle Mike. Plus loin, Littoris. Et quand on prononce, ça fait Mike Littoris. C'est assez astucieux. Et lui, ben, il fait un peu sa crise du démon de midi. Il faut croire que puisqu'il conclut que avoir des relations sexuelles après 40 ans, ben, c'est très excitant, contrairement à ce qu'on croit. Parce que vous savez jamais si vous allez avoir un orgasme, une crampe ou une crise cardiaque. Ouais, mon gars, je peux pas vraiment t'en vouloir, je suis à peu près au même point que toi. Et puis il y a Rosa Rosam qui elle est un petit peu plus mélancolique puisque elle a cet aphorisme que je trouve assez mignon, le célibat, ce mélancolique vague à l'homme au lieu de vague à l'âme. Oui, on peut voir ça comme ça. Enfin bref, mais il y a des gens qui ont des préoccupations un petit peu plus prosaïques, c'est le cas de Madame Framboise, qui, elle, sait pas trop comment s'habiller avec le retour du froid. Et puis elle dit, le problème de la robe pull moulante, c'est que le matin, ben, t'es super bonasse, et le soir, on dirait que t'attends le petit troisième. Oui, parce que bon, ben là, forcément, ta souhait a un petit peu évolué entre temps, voilà. Et enfin, on va conclure avec un article de presse qui rapporte à ce temps de pandémie qu'on vit encore en ce moment et qui va peut-être empirer. Allez donc savoir. Eh bien, c'est à Genève qu'un. Vous savez que les maisons closes ont pignon sur rue et ne sont pas et sont tout à fait légales. Eh bien, à Genève, vous avez un sex club qui propose des fellations gratuites aux vaccinés. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit, oh là là, ça part en sucette. Cette pandémie. Ouais, bien vu. Voilà, chers amis. Ben écoutez, je pourrais vous en citer d'autres, mais on va arrêter là. Je vous les garde pour la prochaine édition d'Erosmose, puisqu'on se retrouvera encore une fois en décembre, chers amis, avec une émission sur laquelle on reviendra sur le thème d'une créature fantastique qui vous aura tous fait frissonner à un moment ou à un autre. Ce sont les vampires. Et on en parlera d'ici une quinzaine de jours, toujours sur Osmose Radio. Voilà, chers amis. Mes petits fripons, je vous dis à bientôt. Je vous propose de nous quitter, comme à notre habitude, avec une musique. Et puisqu'en ce moment, avec le coût de la vie qui augmente, hein, le gaz qui augmente, l'essence qui augmente et même le prix de la bouffe qui augmente, il n'y a que les salaires qui n'augmentent pas, eh bien on a un petit peu l'impression de se faire enculer. C'est l'objet de la chanson de Guy Edré avec laquelle on va se quitter, chers amis, l'amour à l'envers. Moi je vous embrasse sur le côté pile, hein, et puis je vous laisse le côté face. Salut.
On ne m'aime que de dos, c'est mon lot, c'est mon fardeau. On ne m'aime qu'à l'envers, je ne connais que l'amour par derrière. Souvent je ne découvre mes amants qu'au petit matin en me réveillant. Je peux alors mettre un visage sur ces oh, ces râles que j'entends dans mon dos. Par devant, par derrière, de toutes les manières, peu importe par quel côté on s'aime, pourvu que l'on s'aime quand même. On ne me parle jamais de mes yeux, on me complimente surtout pour mes cheveux. Je peux avoir de la salade coincée entre les dents, je m'en fous, on ne me regarde jamais par devant. Je pourrais être enceinte de 8 mois, qu'on ne le remarquerait même pas. Et pour faire des économies sur les UV, je ne bronze que d'un côté. Par devant, par derrière, de toutes les manières, peu importe par quel côté on s'aime, pourvu que l'on s'aime quand même. On n'aime que mes bons côtés, je dois toujours me retourner. J'aimerais qu'on m'aime en entier, et pas seulement la tête écrasée contre l'oreiller. J'aimerais qu'au moins une fois on m'aime à l'endroit, que je sache ce que ça fait de savoir avec qui on le fait. À l'endroit, à l'envers, de toutes les manières, peu importe par quel côté on s'aime, pourvu que l'on s'aime quand même. Par devant, par derrière, de toutes les manières, peu importe par quel côté tu m'aimes, pourvu que tu m'aimes quand même.